Midi 30, 14h.
La France bouge avec Raphaël Duchemin sur Europe 1.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue sur Europe 1. Si vous nous rejoignez, ma mission quotidienne, vous la connaissez, vous montrer qu'il y a, oui, en France, des gens de talent qui s'activent pour faire bouger les choses. À la veille du disquaire, des gros plans sur le grand retour du vinyle. Non, il n'est pas démodé. La preuve, des Français sont en train de lui offrir une seconde jeunesse. Elle existe depuis 1872. De Cailleux sera aujourd'hui l'entreprise qui va bien, merci. Et puis vous voulez peut-être réserver des activités ou organiser un goûter ce week-end. Vous ne savez pas comment vous y prendre. Nous avons la solution, c'est Fun Booker. C'est ça, la France qui bouge. Et c'est sur Europe 1.
Europe 1.
39-21, séquence nostalgie. Aujourd'hui, eh oui, on va ressortir nos platines Anissa et faire tourner les 45 tours.
Ben oui, venez nous dire si vous écoutez la musique sur des vinyles, venez nous dire pourquoi vous aimez les vinyles et venez poser vos questions à tous les invités de Raphaël Duchemin dès maintenant. 39-21, c'est pour appeler Europe 1, 50 centimes la minute, et puis on lit vos messages et vos témoignages sur Twitter avec le hashtag Europe 1 Raphaël.
Eh oui, et vous allez voir que le vinyle est effectivement de retour, il est là et bien là, et pour accueillir nos invités comme chaque jour, à mes côtés, Elisabeth Assayag est là. Bonjour Elisabeth.
Salut Raphaël et bonjour à tous.
Et notre coach, il arrive en courant presque, c'est Frédéric Mazella, fondateur de Blablacar. Bonjour Frédéric.
Bonjour.
À mon époque, peut-être à la vôtre aussi, hein, qui sait, vous nous le direz peut-être tout à l'heure, écouter de la musique à la maison, c'était soit allumer le poste de radio ou alors mettre un disque sur la platine. Eh bien aujourd'hui, le vinyle est de retour. Bonjour Mathieu De Folie.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le PDG de Orfeo et Orfeo commercialise le jukebox moderne. Alors qu'est-ce que c'est le jukebox moderne ? Moi je connais celui qu'on avait dans les films à l'époque, dans les années 60, où on voyait les acteurs appuyer sur des boutons et là la musique se mettait à jouer. C'est pareil ?
Alors c'en est très proche. La mécanique est très très proche effectivement. L'idée de pouvoir contrôler des vinyles 33 tours, pouvoir en charger 20 dans une machine et les lire automatiquement. Parce que, en fait, un des défauts du vinyle est son temps de lecture, qui dépasse rarement les 25 minutes, et la contrainte est de devoir les tourner pour changer de face, les remplacer, et exister, comme vous le disiez à l'époque, le jukebox, qui permettait d'enchaîner ces vinyles et de pouvoir les écouter pendant des heures. C'est ce qu'on a voulu relancer comme fabrication, donc on a relancé une entreprise à côté de Rennes pour fabriquer nos machines. Et pour vous le décrire un petit peu, même si c'est plus facile avec un visuel, vous avez une pile en fait de 20 vinyles 33 tours et une pince qui va venir vous faire la sélection, donc vous prendre le vinyle, le monter sur la platine et vous faire la rotation si vous choisissez par exemple la face B, il va venir vous le tourner tout seul.
Vous dites 33 tours, c'est important de le préciser parce que jusqu'à présent, il n'y avait pas de jukebox qui puisse faire fonctionner des 33 tours. Il y avait pour les 45, hein, je crois qu'il y a une entreprise anglaise qui en fabrique, mais 33, ça n'existait pas.
Tout à fait. C'était traditionnellement sur le 45 parce que c'était en fait une machine qui était utilisée principalement dans les bars, dans les restaurants, pour pouvoir apporter une playlist musicale qu'on retrouve aujourd'hui en fait dans notre poche. Et c'était vraiment l'esprit du 45 tours. Là, sur le 33, vous êtes plus sur une écoute en fait d'album. Donc, en général, je le compare à regarder un bon film. On va se mettre dans son canapé et on va l'observer. Et là, ça va être la même démarche avec le vinyle 33 tours. Vous allez vraiment, en fait, au-delà d'écouter une musique, plutôt rentrer dans l'univers de l'artiste et enchaîner une dizaine de titres qui composent son album.
Mais alors, racontez-moi, comment elle vous vient, cette idée, en 2015, hein, je crois?
Alors, elle vient en 2015. Au départ, c'était quand
vous
même...
Vous êtes passionné de vinyle, je
voilà,
suppose.
Voilà, exactement. Passionné de vinyle, je travaillais dans les Hauts-de-France et ils ont beaucoup de vide-greniers, notamment là-bas, où j'allais chiner mes premiers vinyles. Et puis, le premier entraînant le deuxième, j'ai commencé vraiment à m'y intéresser. Et avec un ami à moi, on s'amusait à s'échanger nos vinyles, à les écouter ensemble. Arrivé un moment où, en fait, on en a eu marre d'aller les tourner, tout simplement. Et puis, moi, ça m'est resté un peu plus longtemps dans la tête. Et 2 ans plus tard, on a réussi à refabriquer une machine en partant de zéro. Très proche au final de ce qui se faisait avant d'un point de vue mécanique, pas du tout sur le design et l'esthétisme. On a essayé d'apporter un mobilier un peu plus contemporain et moins, on va dire, moins ancré dans les années 50 comme pouvaient être les anciens modèles. Et c'est ce qui a défini donc notre jukebox moderne.
Elisabeth, justement, il se porte comment le marché du vinyle aujourd'hui ?
Mais hyper bien, autant le marché du CD ne va pas bien du tout, mais alors le marché du vinyle, figurez-vous qu'aujourd'hui, le marché du vinyle ça représente près de 20% du marché physique et en 5 ans, les ventes ont quintuplé en France. Et ce qui est génial, eh bien, c'est que les disquaires aussi indépendants sont revenus. Ils sont aujourd'hui deux fois plus nombreux qu'en 2011. Et alors ce support que l'on pensait disparu représente aujourd'hui 12% du chiffre d'affaires de la musique.
Et qui achète le vinyle ?
Eh bien, ce sont les 30-49 ans qui génèrent 40% du chiffre d'affaires du vinyle, devant les plus de 50 ans qui représentent tout de même un tiers des consommateurs du vinyle et ils les achètent dans des magasins spécialisés, donc c'est chez ces disquaires.
Que dit notre coach de ce jukebox moderne, connecté, nouveau ?
Deux choses, c'est marrant, ça me fait penser un petit peu au slow food versus fast food. C'est-à-dire un peu un retour aux sources. Et je me demande ce qui motive au final tous les gens qui achètent votre jukebox. Est-ce que c'est la recherche aussi, et même de manière plus générale par rapport au vinyle, est-ce que c'est la recherche d'un son spécifique ? Est-ce que c'est une forme de nostalgie ? Est-ce qu'on connaît les leviers, ce qui fait qu'il y a un regain comme ça d'intérêt pour le vinyle ?
Alors c'est un peu un mélange de tout ça, effectivement. C'est-à-dire que le vinyle vous apporte une chaleur que vous retrouverez pas dans les autres supports. Il y a un côté nostalgique très clairement sur le jukebox, même si effectivement nous on a essayé d'aller vers un design un peu plus moderne. Mais ce qui qualifie, je pense, notre clientèle aujourd'hui, c'est bien évidemment des gens amoureux de cette musique et de cette époque qui est quand même, on va dire, très pop rock. Classiquement dans les acheteurs de vinyle, même si on va retrouver du jazz, on va retrouver du classique, mais comme vous parliez des disquaires, ils sont quand même généralement assez spécialisés là-dessus. Et je pense qu'au final, le vrai enjeu, la vraie volonté pour mes clients, c'est de retrouver en fait dans leur lieu de vie un produit qui diffuse la musique soit pour leur foyer en général, soit pour leurs clients, pour leur personnel, et un petit peu d'aller à contre-courant de ce qui peut être le tout numérique avec les écouteurs, on va écouter sa musique dans son coin. Là, c'est vraiment redécouvrir la musique ensemble, et le vinyle est assez favorable à ça, oui.
Et alors, vous commercialisez depuis 5 mois, c'est ça ?
On commercialise depuis 6 mois maintenant, depuis le mois d'octobre de l'année dernière.
Comment ça se passe ? Vous en avez vendu beaucoup ?
On a dépassé la dizaine d'unités, donc on est content.
On est sur des produits qui sont quand même haut de gamme, qui coûtent plus de 10 000 euros.
On est vraiment sur un marché de niche, donc on n'imagine pas, nous, demain, commercialiser des milliers d'exemplaires. On travaille par collection.
Et c'est fait, le meuble est fait en France, hein. C'est important de le dire. La platine à l'intérieur n'est pas française.
Elle est allemande, c'est une Dual, tout à fait. Tout simplement parce qu'on n'a pas réussi, nous, à trouver aujourd'hui de fabricants sur des platines automatiques. Donc c'est un système de platine dont on avait besoin. Aujourd'hui, on est à 75% de Made in France dans notre fabrication. Il y a un peu plus de 50 fournisseurs pour la fabriquer. Et nous, on monte tout dans notre atelier, donc un peu plus de 300 pièces à assembler. On récupère notre meuble qui est fait dans les Pyrénées par un menuisier, M. Tujeg, avec qui on travaille. Et donc tout l'assemblage est fait dans notre atelier rennais.
À Cervon-sur-Vilaine, c'est ça.
À Cervon-sur-Vilaine, à 15 km de Rennes, dans un village un petit peu artisan où vous allez retrouver tous les cœurs de métier dont nous on avait besoin. Au sens large, on appelle ça la mécatronique. Donc c'est la mécanique, l'électronique, l'informatique et l'automatisme. Donc, c'est vraiment des cœurs de métier traditionnels, mais qui ont subi des grandes évolutions. Ou vraiment très récente pour tout ce qui est automatisme et informatique.
On reste ensemble, on continue à passer de la musique aujourd'hui sur vinyle, sur Europe 1.
Il est 13h08.
Europe 1, Raphaël Duchemin.
Et vous voulez peut-être avoir vos vinyles dans votre smartphone ? Eh bien c'est possible grâce à Yes It Is, on vous dit tout. Et beaucoup plus encore dans un instant.
La France bouge sur Europe 1 et aujourd'hui on parle musique puisqu'on découvre les innovations françaises dans le domaine du vinyle. C'est une émission musicale et vintage aujourd'hui, oui. Raphaël Duchemin. Vous pouvez réagir à cette émission et on a déjà des messages sur Twitter. Alors continuez, hashtag Europe 1 pour témoigner, nous dire comment vous écoutez de la musique, est-ce que vous aimez les vinyles. Vous pouvez également nous le dire au standard Europe 1, le 39-21.
Vous serez d'accord, Anissa, le vinyle, c'est quand même un son particulier.
Ah, bien sûr.
Si vous êtes un puriste, vous avez peut-être envie de retrouver ce son-là, tout simplement dans votre smartphone, quand vous êtes dans le métro, par exemple. Eh bien, aujourd'hui, sachez que oui, c'est possible. Bonjour, Nicolas Baudry.
Bonjour.
Vous êtes le président de Revive et directeur général de Yes It Is. Alors, tout commence en 2015, je crois, avec votre cofondateur. Vous avez l'idée de connecter le vinyle parce que vous étiez tout simplement tous les deux, vous aussi, passionnés par le vinyle. Racontez-moi ce que vous avez à ce moment-là précisément en tête.
À ce moment-là, nous avions créé une société qui était spécialisée dans la connexion des objets, tous les objets connectés. Et on avait eu l'idée de connecter les vinyles pour faire un cas d'usage auprès du CES de Las Vegas. Ouais. Et nous avons donc déposé cette idée et gagné un premier Innovation Award à cette occasion.
Mais quelle était votre ambition ?
Notre ambition, c'était de, comme vous le dites, le vinyle, c'est un bel objet, c'est un magnifique son. Il fallait qu'on lui apporte une deuxième vie, enfin encore l'améliorer et permettre à quelqu'un qui n'a pas de platine, par exemple, de l'écouter, d'envoyer du contenu augmenté, de faire du lien avec l'artiste, beaucoup de choses de ce type.
Donc, vous imaginez un procédé pour qu'on puisse, en achetant un vinyle sans avoir de platine à la maison, quand même l'écouter ? C'est-à-dire, qu'est-ce que je fais si j'achète un vinyle et que je n'ai pas de platine chez moi ? Je passe par vous, comment ?
Tout simplement, vous êtes chez votre disquaire, vous avez un smartphone qui est connecté à NFC, vous l'approchez du vinyle et automatiquement, sans avoir téléchargé aucune application, vous avez déjà une pré-écoute de tous les morceaux.
Parce que dans le vinyle, à l'intérieur du macaron, la zone noire, mais le centre du disque, là, il y a une petite puce qui est à l'intérieur et qui nous permet de nous connecter.
Absolument, c'est une puce qui a été déposée et brevetée, d'ailleurs comme l'idée elle-même qui est déposée dans le monde entier. Et donc, c'était une première mondiale quand nous avons sorti le premier. Et donc, elle est pressée au moment de la fabrication chez notre partenaire MPO, avec des contraintes de température importantes.
Et c'est elle qui parle au téléphone.
C'est une puce totalement passive et elle est réveillée par les ondes électromagnétiques de votre smartphone. Et sans avoir aucune manipulation à faire, vous avez immédiatement un lien URL qui vous donne une pré-écoute de tous les morceaux de 30 secondes.
Comme quand on va écouter les CD, par exemple, dans les grandes enseignes et qu'on veut avoir un petit échantillon.
Exactement. Voilà. Donc là, vous avez un échantillon de votre disque de façon totalement autonome avec votre smartphone sans avoir à rien télécharger. Alors, c'est magique.
Ça, c'est magique, mais vous faites beaucoup plus. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a acheté le vinyle, on peut aussi être en lien directement avec l'artiste, avoir tout un tas d'informations qu'on n'aurait pas sinon.
Absolument. Vous débloquez, il y a une petite procédure de sécurité pour éviter tout excès sur le téléchargement et vous avez immédiatement accès à notre application, l'application Revive, qui vous permet d'avoir tout un contenu augmenté. Donc vous pouvez écouter le disque de façon très visuelle sur votre smartphone et avec une bonne qualité d'écoute en streaming ou en mode avion. Vous avez les clips, les paroles, des liens avec l'artiste. Tous les réseaux sociaux sont agrégés sur cette application. Donc,
on est même
Snapchat,
en lien avec la communauté qui suit l'artiste. Voilà. Que dit notre coach de cette invention ?
Alors je ne connaissais pas du tout. Je trouve ça assez fascinant parce qu'en fait, ça remplace justement... j'imagine tous les dispositifs d'écoute qu'il peut y avoir, y compris même tel qu'on le fait ou on le faisait sur les CD. Dès qu'on est chez un disquaire, on a envie d'écouter en fait avant d'acheter.
Oui.
Et donc, c'est une idée très, très intelligente. Mais alors, est-ce que c'est bien répandu aujourd'hui ? Quel est le... Je sais pas, il y a combien de disquaires qui ont adopté la solution ? Parce que, de ce que j'ai compris, vous utilisez un fabricant de vinyle particulier, mais pas
français,
tous.
MPO.
Mais
français,
pas tous
MPO,
encore.
Oui, qui est troisième mondial.
Voilà, mais donc du coup, pour que les disquaires l'adoptent, j'imagine qu'il va falloir que ça devienne une sorte de standard.
Absolument.
Et donc, quel est votre chemin vers la standardisation ? Et est-ce qu'il y a des disquaires qui vous aident dans ce sens-là ?
Alors, le chemin vers la standardisation passera forcément par les majors et labels qui doivent imposer à leurs fabricants d'inclure du NFC, qui apporte tous les atouts qu'on vient de décrire avec Raphaël, en plus de la sécurité absolue, puisque ça évite d'avoir des contrefaçons, puisque là, vous avez un disque authentique forcément.
Et puis ça évite aussi d'abîmer les disques, tout simplement, en les manipulant pour les écouter. Donc,
exactement. Ouais. Vous n'avez pas à l'ouvrir pour faire une pré-écoute avant d'en faire l'acquisition. Et une fois que qu'une major ou de gros labels auront lancé des artistes importants, je pense qu'il y aura un effet viral parce qu'il y a vraiment un gros intérêt à avoir ce contenu augmenté, parce qu'on respecte totalement l'intégrité et la qualité de ce bel objet, de ce classique qu'on adore tous, tout en lui donnant une version 2.0 qui apporte beaucoup en lien avec l'artiste et en avec des clips, les anciens morceaux. On pense que ça va avoir un effet viral très prochainement, dès que le NFC sera plus généralisé.
Et pendant ce temps, Anissa est en train d'essayer des lunettes, parce qu'il y a un disque avec nous et un vinyle, tombé. Évidemment. Et il y a des lunettes à l'intérieur. Alors, avec la pochette en 3D,
c'est des lunettes 3D, c'est ça?
Ce sont des lunettes 3D. Il est magnifique. Hein. On a voulu faire là encore un superbe objet. Donc, c'est notre nouvelle sortie vinyle, coproduite avec Star Wax. C'est Star Wax Revive Volume 5. La sortie sera demain lors du disque RD. On fait même une release party demain soir à 21h, au hasard ludique.
Et qu'est-ce que vous pourrez écouter en 3D. Je vois la pochette.
Ouais, la pochette est en 3D. Voilà. C'est une édition limitée. On va la vendre à partir de demain sur revive-shop. Et il y aura en concert des beaux morceaux. On aura notamment Bumblebees, Yeti Mescata, qui sont des groupes anglais. C'est la première fois qu'ils viennent jouer en France. Et c'est franchement, la jeunesse est fan, et moi aussi. Et Thomas Kahn également, qui est un très bel artiste français de Clermont-Ferrand.
Voilà. On reste ensemble, on continue à parler vinyle aujourd'hui sur Europe 1.
Il est 13h18.
Europe 1, Raphaël Duchemin.
Et vous avez peut-être envie de produire votre propre vinyle. Eh bien, c'est possible. Pour le faire, vous pouvez par exemple contacter Diggers Factory. À tout de suite.
La France bouge sur Europe 1 tous les jours entre 13h et 14h. Aujourd'hui, on parle musique vintage avec le vinyle qui signe son grand retour. Écoutez ce grain que vous entendez sur Europe 1. Eh bien, le vinyle est à l'honneur et vous pouvez bien sûr réagir à cette émission. Vos questions, vos témoignages, c'est dès maintenant sur Twitter avec le hashtag Europe 1 et au 3921, le standard, Raphaël.
Beaucoup d'artistes ont du mal à se faire connaître. Il y a évidemment les réseaux sociaux, mais après, il faut produire le disque et pourquoi pas faire un 33 tours plutôt qu'un CD, tiens. Bonjour Alexis Castiel.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le cofondateur de Diggers Factory. Alors évidemment, vous aussi, vous adorez le vinyle. Passion qui vous a été transmise par vos frères, hein, je crois.
Exactement. Ouais.
Et vous aussi, en 2015, décidément, vous vous lancez parce que vous constatez que faire un vinyle, eh ben, ça coûte cher et que du coup, bah, beaucoup d'artistes y renoncent.
Ouais, tout à fait. C'est vrai que c'est assez compliqué de faire du vinyle quand on est un artiste indépendant. Ça coûte cher, donc c'est un produit qui est risqué par définition. On ne sait jamais combien on doit en produire, donc souvent les artistes vont en produire beaucoup trop en se disant, bah voilà, ça va diminuer mon coût unitaire, donc je vais en faire 500, sauf que derrière, ils en vendent 100. Et ben, ils ont des stocks, ça fait de la surproduction, c'est du gaspillage et ça fait de la perte d'argent pour tout le monde.
Donc du coup, vous inventez une plateforme et vous dites aux artistes, aux jeunes artistes, hein, notamment ceux qui ont du mal à se faire connaître, venez me dire si vous avez envie de faire votre propre disque et nous, on va demander aux gens d'écouter ce que vous faites, on va mettre le morceau en ligne et puis c'est eux qui vont décider.
C'est ça exactement. Il faut imaginer que c'est un système qui est inspiré du crowdfunding, donc du financement participatif. Mm-hmm. C'est des précommandes, le financement du vinyle est prépayé grâce à la communauté, grâce aux
fans. Donc si j'ai envie de faire une chanson demain, je viens chez vous, je mets ma chanson, je chante mon morceau sur votre plateforme.
Ouais.
Et les gens vont.
Et ensuite vous uploadez votre musique sur la plateforme.
Et ensuite les gens vont acheter ou pas d'ailleurs le morceau.
Exactement. Voilà. Et le minimum c'est 50 exemplaires, donc ça peut vraiment parler à un petit artiste. On travaille aussi avec des très gros artistes, hein, bien sûr. On travaille notamment avec Lina. Pour faire pour éditer des vieux concerts de Jacques Brel, de Gainsbourg.
Alors justement, vous nous avez amené quelques vinyles qui vont, notamment celui de Jacques Brel dont vous parliez, qui va sortir demain pour le
Discardé, tout à fait.
Ils sont avec nous sur europe1.fr, vous pouvez les voir.
Alors là, pour le Jacques Brel, c'est une édition inédite de Amsterdam qui n'a jamais été écoutée depuis plus de 50 ans. C'était un concert en fait, qui a été à la Maison de la Radio en 65. Et donc, c'est d'habitude, il est accompagné à l'accordéon sur ce morceau qui est connu. Et là, il est accompagné seulement d'un piano et d'une contrebasse. Donc, c'est vraiment un morceau inédit.
Vous avez combien de personnes qui ont déjà sauté le pas et qui sont déjà venues sur la plateforme?
Alors, au niveau des utilisateurs, c'est-à-dire des fans, on est à 60 000 personnes sur la plateforme.
Donc, ceux qui viennent acheter de la musique.
Et on a produit déjà plus de 300 artistes sur la plateforme.
Des artistes qu'on connaît, qui ont été connus après?
Il y a de tout. Il y a des tout petits artistes. On produit des artistes hip-hop tchèques, complètement inconnus. Mais on travaille aussi avec des gros artistes. On travaille avec Headbanger. Donc le label de Pedro Winter, avec Justice, etc. On a fait la dernière sortie de Tommy Guerrero et Trevor Jackson. On travaille aussi avec Lina, on travaille avec plein de labels indés comme Animal Records en France, Voilà, c'est très très large, puisque en fait tout le monde est intéressé par notre solution à partir du moment où ils n'ont plus besoin d'avancer les frais, puisque c'est prépayé grâce au fan.
Et si j'ai envie d'en faire 10, je peux en faire 10?
Alors aujourd'hui on propose 50 minimum, mais on peut faire 10, c'est possible, c'est juste que ça coûte très cher. Donc vous pouvez
le faire. C'est-à-dire cher, c'est quoi?
Bah en fait, à partir du moment où on descend en dessous de 50, c'est plus le même système de production. On passe par des machines qui produisent à l'unité. Et donc, du coup, on passe tout de suite à 50€, 60€ le vinyle. Mais à partir de 50 exemplaires, on est à 20€ le vinyle. Donc, c'est quand même raisonnable. Et à partir de 100 exemplaires, on descend à 15€, 10€. Quoi.
Alors, justement, en termes de fabrication de vinyle, il y a des choses. Ici, en France, on parlait
Mais
tout
oui,
à l'heure d'MPO.
Hein. Vous avez donc MPO. Hein. MPO, c'est une entreprise qui est familiale en Mayenne. Elle produit actuellement 30 000 vinyles en moyenne par jour. Et l'histoire de cette entreprise, elle est un peu particulière parce qu'elle n'a pas voulu sacrifier ni son matériel, ni ses employés. Elle date de 1957 et elle a aujourd'hui des usines à Québec et en Californie. Vous avez aussi M-Com, musique, et ça c'est une entreprise familiale, artisanale, pardon, bretonne.
Oui, qui effectivement est très intéressante, hein, qui a essayé de relancer d'ailleurs des nouveaux concepts de vinyle qui a...
En plastique recyclé. Ouais,
plastique recyclé, ouais. Avec des algues aussi, hein,
des
je crois,
algues,
à un moment.
Essayé,
et puis bon,
ouais.
On peut aller très loin
avec le vinyle. Ils ont dû arrêter. Juste aujourd'hui, le vinyle, qu'est-ce qu'on achète en priorité, Elisabeth?
Alors, en priorité, bah, par exemple, je peux vous donner le top 10 des vinyles les plus vendus. Alors, bon, par exemple, vous avez Nirvana, Amy Winehouse. C'est pas forcément des artistes d'aujourd'hui. Hein, Amy Winehouse qui est décédée. Vous avez Michael Jackson, Jeff Buckley ou encore I Am.
Bon, que dit notre coach?
Moi, je voulais savoir combien de gens soutiennent en moyenne les artistes. Enfin, comment ça se passe et quelle est la répartition entre artistes connus et artistes moins connus sur votre plateforme? Est-ce que les artistes qui sont déjà très connus, qui font déjà beaucoup de volume, ne viennent pas vous voir? Ou est-ce que, au contraire, c'est une bonne manière pour eux de sonder si leur vinyle marcherait?
Alexis Castiel.
Diggers Factory a été créé à la base vraiment pour les artistes indépendants qui avaient du mal à se produire parce qu'ils n'avaient pas forcément le financement, ils ne savaient pas comment produire ces vinyles. Maintenant, on travaille de plus en plus avec des gros artistes, notamment les majors. On va travailler maintenant avec Sony. Parce qu'ils ont un catalogue énormissime, mais qu'ils n'ont pas forcément le temps. C'est des produits, pareil, c'est risqué quand il y a une réédition à faire d'un vieil album d'il y a 20 ans. Ils ne savent pas si vraiment il y a une demande sur le vinyle. Et donc du coup, ils viennent nous voir en nous disant, bon ok, on va tâter le marché. On utilise Diggers Factory comme un outil pour prévoir la demande et voir s'il y a vraiment une demande. Et ensuite, on lance la production seulement s'il y a une demande. S'il n'y a pas de demande, le projet est annulé, tout le monde est remboursé et ça ne coûte rien à personne. Donc on a vraiment des petits artistes comme des très gros artistes.
On reste ensemble, on continue à parler vinyle aujourd'hui sur Europe 1.
Il est 13h27.
Europe 1, Raphaël Duchemin.
Avec vous évidemment, 3921 et Twitter, hashtag Europe 1. Venez nous dire ce que vous écoutez en version 45 tours ou 33 tours. À tout de suite.
La France bouge sur Europe 1 avec aujourd'hui une émission consacrée au vinyle et les innovations françaises dans le domaine du vinyle, Raphaël.
Oui, avec déjà des messages, Anissa. Fabrice, qui est à Paris, dans le 17e, qui nous dit « J'ai été disque jockey dans les années 90, je connais bien les vinyles et les platines de l'époque. Je dois avoir entre 4000 et 5000 vinyles. Je les ai tous récupérés en MP3, ça doit vous parler, parce que c'est possible de les transformer. Effectivement, c'est possible. On a Sébastien aussi, qui est dans le Val-de-Marne, qui nous dit « Pour moi, le vinyle n'est jamais parti. Je suis DJ plutôt rap, reggae, R&B. Et en tant que DJ, le vinyle est toujours resté là. J'ai une grosse collection. J'ai commencé à 12 ans. J'ai des vinyles qui valent 500€, 1000€. Je suis montée à Paris pour trouver la perle rare il y a 20 ans. » Et je suis restée, nous dit-il. On a aussi des messages sur Twitter.
Oui, on a Hubert qui nous dit « Parfois, ça manque une platine vinyle, mais ça tient aussi beaucoup de place. Je n'ai pas retrouvé tous mes vinyles en CD. » Et en numérique, mais réécouter Introducing Adelaide de Terence Trent D'Arby me botterait bien. Et il dit par contre, la cassette audio, comme la vidéo qu'il fallait rembobiner et dont la bande se coinçait régulièrement dans l'appareil, ne me manque pas du tout.
Alors, bah, la cassette audio, justement, je voudrais qu'on en parle parce que ce que vous faites avec le macaron du disque, on pourra le faire demain peut-être avec la cassette.
On pourra le faire non seulement avec la cassette, mais aussi avec le CD. On a d'ailleurs un brevet qui a été déposé dans ce sens et aussi sur les goodies. Si vous avez envie d'écouter de la musique sur un porte-clés ou autre chose, à ce moment-là, on perd l'objet, mais on a un nouveau support. Oui, on peut le faire.
Alexis Castiel, quand on choisit la musique autrement, quand on vient découvrir des artistes, on laisse tomber finalement une autre forme de consommation musicale ?
Non, je pense que c'est vraiment une consommation différente. Faut penser que le streaming, c'est très important parce que c'est pratique. Et c'est notamment, il y a beaucoup d'experts du vinyle qui disent que c'est grâce au streaming que le vinyle revient aujourd'hui. Parce que, comme on le disait tout à l'heure, c'est compliqué d'acheter un vinyle, ça coûte cher. Et donc forcément, parfois, on n'a pas envie de l'acheter parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a dessus. Donc ça, heureusement que maintenant, on va avoir Revive pour nous aider. Mais pendant longtemps, on ne pouvait pas écouter. Donc du coup, maintenant, grâce au streaming, dès qu'on adore un morceau, dès qu'on adore un artiste, on sait qu'on veut acheter ce vinyle. Et là, on va vraiment soutenir l'artiste en achetant son vinyle. Le streaming, c'est très bien, mais on n'a pas l'impression de soutenir vraiment l'artiste. C'est vraiment c'est un clic, on passe, on zappe. Mm-hmm. Un vinyle, c'est un bel objet, on a un petit lien avec l'artiste et on détient un peu une partie de l'artiste chez soi, et c'est ça qui est intéressant.
Ouais, je vois Mathieu De Folie qui acquiesce, hein. Vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Alexis, évidemment.
Oui, tout à fait, je pense que c'est vraiment des formats complètement complémentaires. Effectivement, le numérique qui a la facilité d'utilisation et qui ne s'écoutera pas dans les mêmes conditions, dans les mêmes lieux que le vinyle, qui est effectivement un peu plus... un côté sacré autour, voilà, sentimental, émotionnel dessus. Donc c'est complémentaire. Je ne pense pas que ce soit des choses qui se concurrencent vraiment. Et je confirme effectivement que le numérique a aidé à l'émergence, à la réémergence du vinyle.
Elisabeth, vous avez trouvé des box aussi de vinyle.
Mais oui, ça existe. Alors, on connaît des box de vin, de ce qu'on veut. Mais les box de vinyle sont arrivées sur le marché.
Ça va plaire à Anissa,
avec des artistes, par exemple, qu'on ne connaît pas forcément sur la Wax Buyers Club. Ça fait 3 ans. C'est une box qui propose un vinyle par mois, issu d'un label indépendant.
Génial.
C'est sur abonnement. Et donc, en gros, il y a quasiment 100% de chances que vous ne connaissiez pas encore l'artiste en question. Vous avez tous les styles qui sont représentés. C'est une start-up française. Mais elle envoie des vinyles jusqu'en Australie, au Japon ou au Canada. Vous avez une autre box de vinyle, elle s'appelle le Vinyl Club, elle aussi, elle a 3 ans et elle fonctionne sur un principe d'abonnement sur Internet. Vous recevez 2 vinyles mystères par mois avec un morceau du 20e siècle, un autre du 21e siècle. Et alors, on est plus sur des classiques avec le Vinyl Club.
Vous connaissiez ?
Ouais,
les box, oui, c'est pas mal comme idée.
Diggers Factory, on va lancer aussi notre box prochainement. Donc voilà, pour aider justement les artistes indépendants également, si on a 100 abonnés, on peut aider.
Oui, c'est
un
petit coup de pouce finalement. Exactement. Pour les artistes indépendants.
Nicolas Baudry.
Je ne connaissais pas.
Vous ne connaissiez pas, non plus.
Si, je connaissais.
Si, vous connaissiez. Bon, que dit notre coach? Ce sera le mot de la fin d'ailleurs. C'est vous qui fermez.
Je trouve ça formidable que ça revienne. C'est vrai qu'en fait, avec la dématérialisation d'un petit peu tout, on a perdu le sens de l'objet. Et je trouve que ça permet quelque part aussi de garder une dimension objet à des choses qui sont émotionnelles, comme la musique. Et c'est vrai que ça permet aussi, je pense, de continuer peut-être à faire des cadeaux, parce que c'est assez compliqué, moi, je trouve, aujourd'hui, de faire un cadeau, offrir un album en numérique, c'est quand même vraiment pas pareil que de le toucher. Et je pense que ça va dans le bon sens. Alors peut-être qu'après, ça va évoluer encore vers autre chose. Mais c'est vrai qu'il manquait avec le numérique un objet pour supporter l'émotion. Et peut-être que c'est le vinyle, peut-être qu'il y a un autre format qui va apparaître, je ne sais pas, mais je pense que c'est complémentaire.
Mais en tout cas, oui.
D'ailleurs, on a inventé un mot à cette occasion qui est figital. Donc on lit le physique et le digital. Et donc, c'est une innovation figitale.
Et vous pourrez évidemment découvrir toutes ces innovations demain au Discardé. Merci d'être venu nous parler vinyle aujourd'hui sur Europe 1.
Il est 13h35.
Europe 1, Raphaël Duchemin.
Restez avec nous dans 2 minutes. Une entreprise qui existe depuis 1872. Vous la connaissez tous sans même le savoir parfois. De Cailleux et l'entreprise qui va bien. Merci, à tout de suite.
Europe 1.
Et la France bouge tous les jours jusqu'à 14h. Raphaël Duchemin. Il est temps de découvrir l'entreprise française qui va bien. Et je crois qu'elle fait partie à tous de nos maisons.
Oh oui, cette entreprise, elle est née, figurez-vous, en Baie-de-Somme, du côté de Vimeux, en 1872. Bonjour Stéphane De Cailleux.
Bonjour Raphaël Duchemin.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le directeur général du groupe De Cailleux, 6e génération, c'est ça ?
6e génération éponyme, oui.
C'était une région, justement, où on s'était spécialisé dans la serrerie, c'est comme ça qu'on disait ?
C'est ça, la serrerie.
Pourquoi ?
On ne sait pas trop. Je pense que les Espagnols sont passés par là et ont laissé leur savoir-faire du métal à travers la serrerie et à travers aussi beaucoup de produits liés à la parfumerie, notamment tout ce qui est verrerie. Les verreries de la Brelle sont dans cette région-là. Donc c'est une région très riche industrielle.
Et alors c'est l'arrière-arrière-grand-père, c'est ça ?
Moi je suis la 6e génération et c'est mon arrière-arrière-grand-père qui lance dans les années 50 la boîte aux lettres acier, en fait. Les boîtes aux lettres avant étaient en bois et il décide de lancer 2 produits, une jardinière en métal qui fait un flop total, et une boîte aux lettres métal qu'il a élancé à la Foire de Lyon dans les années 50.
Mais comment lui vient cette idée ?
Je ne sais pas. Il cherchait, dans ce qu'on a retrouvé dans les traces, un peu en faisant des fouilles archéologiques, mmh. il cherchait de sortir de son métier qui était l'antivol de vélo, de pompe à vélo.
De pompe à vélo.
Voilà. Ou alors la tirelire qu'on mettait dans les troncs d'église, dans les églises. Et donc, il cherchait un produit un peu innovant. Et donc, il a trouvé deux produits et la boîte aux lettres en fait partie.
Alors ça, c'est 1950.
Voilà.
Et puis très vite, il y a quelque chose qui va vraiment vous propulser, c'est l'arrivée de la norme PTT, parce
c'est
qu'on
ça.
Appelait la Poste à l'époque les PTT.
Exactement.
Et ça, 1979.
Et ça, c'est mon papa qui, dans les années 79, est à l'origine de la création de cette norme qui va complètement booster l'entreprise et lui donner la dynamisme qu'on connaît aujourd'hui.
Ouais, il invente pas mal de choses, votre père, hein, parce que c'est lui aussi, dans les années 80, qui lance la porte de sécurité. C'est ça qui
c'est
est
ça.
Aujourd'hui, qui représente 25% de votre activité.
Tout à fait. La porte de sécurité, la porte blindée.
Ouais.
Il y a eu un grand plan, si vous vous rappelez, dans les années 80, les HLM qu'on blindait à travers un certain nombre de produits. Donc il va en Italie et il va s'inspirer de... Bah, il avait le métier de la serrure et il lance les premières portes blindées.
La porte blindée et puis il va commencer à racheter aussi.
On rachète des sociétés.
Des grosses sociétés.
On rachète des sociétés en Allemagne, on rachète un certain nombre de sociétés, on rachète des lignes de fabrication qu'on remet en France, comme Brabantia. Brabantia qui est le leader de la poubelle que tout le monde connaît. Les produits sont fabriqués dans le Vimeux maintenant, sur nos chaînes, mais c'est une relocalisation de la Hollande sur la France. Donc on a toujours privilégié, c'est une chose importante aussi pour combien l'entreprise, notre terroir, la France périphérique, vous voyez, celle qu'on oublie c'est généralement, c'est cette France-là qu'on fait vivre en baie de Somme et à Feuquières-en-Vimeux.
Et puis vous avez aussi toujours privilégié les innovations et c'est encore avec ça hein, que vous fonctionnez aujourd'hui.
Exactement.
Vous avez lancé il y a 5 ans la boîte à colis connectée et puis vous avez encore plein d'autres projets qui sont en cours. Je pense sur les serrures, hein, vous dites à terme, on pourra ouvrir sa porte avec
son
smartphone.
Voilà. C'est-à-dire que l'idée que l'on a, c'est que le smartphone va être à une identité, en fait. Et cette identité-là, on va la retrouver pour ouvrir sa porte d'entrée, sa porte de hall ou sa boîte aux lettres. Tout ça va être lié, en fait. Et donc, on innove complètement en essayant de mettre en place un écosystème autour de notre métier, qui est la sécurité innovante et du digital qu'on a intégré dans les boîtes aux lettres. Ce n'était pas un pari gagné.
Que dit notre coach de l'histoire de Decailleux, toujours aussi moderne, d'ailleurs ?
Oui, je pense que c'est y a effectivement beaucoup de potentiel à aller chercher vers le smartphone, vers tout ce qui est digital. Je ne sais pas quels sont les produits déjà connectés que vous avez et qui pour lesquels vous voyez une vraie appétence.
Alors, on a la borne individuelle connectée hein, pour le particulier. On a MyColibox qui est une borne plutôt pour les villes, pour mettre à l'entrée de vos halls d'entrée. On va demain lier la porte d'entrée d'immeuble qui va être reliée à cette boîte aux lettres. Et donc tous ces métiers-là sont des nouveaux métiers et qui nous permettent aujourd'hui d'évoluer et d'exporter notre savoir-faire.
Tout ce qui se vend sur le territoire français, c'est 95% du Made in France.
Oui.
Vous faites combien à l'étranger ? Vous avez
un peu
d'export quand même ?
Ouais, on fait environ 15 à 18% de notre chiffre d'affaires à l'exportation, principalement en Europe.
Elisabeth ?
Est-ce que vous vendez aux particuliers ? Vous vendez aussi aux syndics ? Il y a des syndics qui font appel à vous pour...
On travaille avec les promoteurs et on travaille avec les syndics et on leur propose une chose importante, c'est que la boîte aux lettres, on ne s'est pas arrêté sur la boîte aux lettres innovante qui, grosso modo, vous recevez un SMS lorsque vous êtes livré, c'est une boîte aux lettres mutualisée, en fait, intelligente. On propose des services avec Walter qui sont des services associés. Ce qui fait que notre entreprise est en train de muter d'une société complètement industrielle vers une société de service. Et c'est ça qui est intéressant et qui intéresse les syndics. Quand vous avez une panne d'ascenseur, vous allez pouvoir, grâce au tableau Walter Tab, de pouvoir effectivement avoir une communication avec votre syndic et faire interagir et recréer du lien social, parce qu'il en manque pas mal dans notre société.
Et ça, c'est votre prochain projet ? C'est le projet qui sortira au mois de septembre ?
C'est ça. Alors, il sort début septembre avec la liaison porte syndic et tous les services dédiés. Et c'est une belle aventure avec mes salariés. On est vraiment tous motivés pour continuer l'aventure, en fait.
L'aventure Decailleux qui a commencé en 1872 et qui n'a pas fini, évidemment, de nous étonner. C'est l'entreprise qui va bien. Merci Stéphane Decailleux d'être venu nous en parler.
C'était avec plaisir.
Il est 13h45.
Europe 1, Raphaël Duchemin.
Vous avez envie d'organiser un goûter ou de réserver une activité pour ce week-end ? week-end, eh bien, on a la solution. C'est Fun Booker. À tout de suite.
La France bouge sur Europe 1 avec Raphaël Duchemin et ses invités. Raphaël, tous les jours, juste avant 14h, vous nous proposez la solution du jour. Et grâce à celle d'aujourd'hui, on ne va plus jamais s'ennuyer.
Ah oui, réservez vos activités, vos loisirs. C'est possible grâce à une plateforme qui ne fait que ça. Elisabeth, ça s'appelle Fun Booker.
Oui, cette plateforme en ligne permet de réserver toutes les activités, les loisirs ou même les goûters d'anniversaire. Vous savez qu'aujourd'hui, à peine 10% des réservations d'activités se font sur Internet. Et c'est très peu par rapport au trafic quotidien en ligne. On achète tout sur Internet. Par exemple, pour les voyages, pour vous donner une idée, on est plutôt à 70% de réservations en ligne. Alors, face à ce constat, Fun Booker est né et c'était fin 2017.
Bonjour Julien Ampollini.
Bonjour.
Vous êtes le cofondateur de Fun Booker. Comment elle vous est venue cette idée de centrale de réservation de loisirs ?
Eh bien écoutez, comme vous venez de le dire et de l'expliquer, aujourd'hui, on s'est habitué en tant que consommateur à réserver énormément de choses et à se simplifier la vie avec Internet. C'est à ça que ça doit servir. C'est le cas pour la réservation d'hôtels, d'avions,
oui.
Aujourd'hui aussi de médecins,
oui.
Évidemment.
Le covoiturage, évidemment.
Ce n'est pas Frédéric Mazella qui dira le contraire. Et donc, on a vécu, mes associés et moi, ces dernières années, en travaillant dans ces secteurs-là, et on a vu comme une anomalie ce sujet des loisirs qui est en particulier en retard sur la simplification par Internet de la réservation pour l'utilisateur. Et on a voulu que funbooker.com soit la solution pour trouver et réserver simplement, en quelques clics, une activité de loisir.
Alors comment vous avez résolu cette anomalie ? Comment concrètement, si j'ai envie de réserver, je ne sais pas, allez, je dois organiser un goûter d'anniversaire pour après-demain. Comment on fait chez vous ?
Alors, c'est un très bon exemple. Ça fait partie des solutions qu'on a proposées.
Vous avez plus de 3000 solutions.
On a plus de 3000 offres en ligne aujourd'hui, effectivement, pour des activités. Et on a essayé d'adapter la sélection d'activités à des cas d'usage. Donc, que ce soit un cadeau, une sortie en famille, ou typiquement, bien sûr, les cadeaux, ça fait partie des sujets sur lesquels il y a énormément de demandes dans l'univers des loisirs. Offrir des expériences, du temps partagé. Là non plus, ce n'est pas Frédéric qui dira le contraire. C'est vraiment une tendance de fond. Et puis, faciliter la vie des parents. Lorsqu'on parle d'un goûter d'anniversaire, on sait qu'il y a à peu près 8 millions de fêtes d'anniversaire par an en France, de plus en plus avec des activités, des sorties. Et donc simplement, on a fait deux choses. On a utilisé, je dirais, la technologie et la passion. La technologie, c'est de permettre d'avoir des parcours qui sont aujourd'hui au même niveau que ce que l'on s'est habitué à connaître, effectivement, dans le covoiturage ou dans l'avion. Et donc ça, on a développé une solution et c'était notre cœur de métier à l'origine. Et puis en face de ça, on a mis de la passion, c'est-à-dire qu'on a fait une sélection de professionnels qu'on est allé chercher en fonction de ce qu'ils faisaient, en fonction de la réputation qu'ils avaient, de la diversité des offres, pour proposer un choix, mais un choix aussi avec des garanties pour l'utilisateur sur la fiabilité, sur la typologie de prestations, savoir ce qu'ils allaient acheter, ce qu'ils allaient avoir pour leur argent, pour leur permettre, ce qui est nous notre vocation, c'est que les gens passent de super moments. Donc si on va à un anniversaire enfant, il faut que les enfants passent un super moment.
Alors comment ça se passe ? On paye directement sur votre plateforme et vous reversez quelque chose à avec les personnes que vous avez sélectionnées ou vous êtes simplement une plateforme de mise en relation ?
Alors, on est une plateforme de mise en relation, effectivement, où en quelques clics, vous pouvez aller découvrir l'ensemble du contenu de la description de votre activité.
On va sur le site internet de
vous allez sur funbooker.com, effectivement, ou sur le site du professionnel. On met aussi notre technologie à la disposition de certains professionnels, tous ceux qui le souhaitent. Mais en tout cas, vous allez pouvoir aller sur funbooker.com, choisir parmi cette sélection, comme vous le disiez, de plus de 3000 offres, celle qui vous intéresse, avoir la description de tout ce qui va se passer, ce que vous allez vraiment acheter, pour avoir des garanties aussi. Les avis des utilisateurs, uniquement des gens qui ont déjà fait l'activité, pour que les avis soient certifiés
pour avoir
de qualité.
Un petit retour d'expérience.
Et effectivement, vous allez pouvoir choisir la date à laquelle ça vous intéresse et puis payer en ligne. Et
sur le site,
sur le site, effectivement.
Que dit notre coach ? Le partage, ça vous parle, hein, Fred ?
Oui, c'est dans la mouvance. J'ai deux questions. La récurrence d'usage, est-ce que les gens achètent plusieurs fois des activités chez vous ? Et la deuxième, c'est, en combinant un petit peu ce dont on a parlé un peu avant et les tendances actuelles aussi, est-ce qu'il y aurait un intérêt à créer une sorte de box d'activité ? Alors, il y a déjà des box, hein, et d'ailleurs, vous pourrez nous expliquer votre positionnement et votre différenciateur par rapport aux box d'activité qui peuvent exister. Mais au-delà de ça, est-ce que c'est possible de concevoir le fait qu'on s'abonne hein, tout simplement à des activités qu'on reçoit tous les mois, tous les trimestres, j'en sais rien ? En fonction de certaines affinités quand même.
Julien Ampollini.
Oui, tout à fait. Ce sont deux préoccupations effectivement qui sont au cœur de notre histoire et de très bonnes questions. Alors sur la récurrence, c'est effectivement une bonne nouvelle. On est extrêmement content d'avoir eu un démarrage, puisque l'entreprise a été lancée et mise en ligne fin 2017, donc on a à peine plus d'un an d'histoire. Mais on a déjà eu des milliers de clients sur toute une diversité d'activités. Et ce que la plateforme montre, c'est qu'on a effectivement chaque année différentes occasions d'acheter des loisirs. Ça peut être un cadeau, ça peut être l'anniversaire d'un enfant, on en a parlé, ça peut être dans quelques jours la chasse aux œufs en famille.
Et donc partout en France.
On a commencé en Ile-de-France, mais aujourd'hui on est partout en France. Nos 3000 offres sont partout en France. Et on voit qu'on a de plus en plus de familles, beaucoup qui sont dans notre cœur de cible, qui ont acheté à un moment une prestation et qui reviennent pour une sortie en famille ou pour un besoin de cadeau, typiquement une occasion donnée. Et ça fait la transition avec votre deuxième question sur les box. Effectivement, c'était une idée qui était à une époque qui a permis de donner une matérialisation à ces cadeaux et à ces moments, mais qui a aussi atteint un certain nombre de limites, notamment par rapport à la qualité de l'expérience et à la compréhension de ce qui a été acheté. Et c'est quelque chose qu'aujourd'hui on veut dépasser en proposant vraiment la possibilité de comparer et de vraiment savoir ce que l'on avait en face de son argent. Mais l'idée de pouvoir packager les offres et de les rendre en abonnement est effectivement une bonne idée sur laquelle on travaille.
Ça s'appelle Fun Booker, c'est la solution. Merci d'avoir été avec nous. Merci à Frédéric Mazella qui était notre coach. On se dit à lundi, nous parlerons de l'art.